Bonjour à toutes et tous. Alors vous avez vu que le sujet est un peu d'actualité. Je n'avais pas une idée précise de sujet pour aujourd'hui. Le sujet, pour une fois, n'est pas imposé. Et donc, lorsque j'ai accepté d'apporter un message, eh bien, je n'avais pas d'idée précise, mais l'actualité m'a un peu orienté, puisque c'est aujourd'hui que nous renouvelons le Parlement de notre canton. Et donc, je me disais, mais à première vue, cet acte civique, cet acte un peu patriotique, n'est pas spécifiquement chrétien. Alors, on peut se demander d'abord s'il est pertinent d'aborder un tel thème du moment que nous sommes dans une république laïque où il y a une séparation entre les choses de l'État et les choses de l'Église. Religion et pouvoir politique sont principes séparés. Le principe de la séparation entre Église et État est assez récent et, disons, dans nos contrées, ce principe dit, en fait, qu'il ne doit pas exister d'ingérence de l'État dans la marche de l'Église et réciproquement. Mais vous en conviendrez, intuitivement, nous sentons bien que la liberté de l'Église envers l'État est toute relative. Elle ne consiste en tout cas pas à faire tout ce que nous voulons comme une sorte d'autorisation, de blanc-seing, comme si l'État nous permettait de faire ce que bon nous semble, du moment qu'il n'aurait pas droit de regard dans la marche de nos activités. Bien au contraire, nos activités sont tout à fait sous la surveillance de l'État. Et l'Église, comme toute société à but non lucratif, on pourrait dire, hein, vu des autorités civiles, l'Église est une société à but non lucratif. Elle est réputée y être une organisation poursuivant une activité religieuse, ce qui ne la dispense d'aucune manière à devoir satisfaire aux exigences de la loi civile, aux règles de la vie sociale. Dans une hypothèse délirante où on se mettrait à affirmer que Dieu, en référence à Abraham et Isaac, Dieu exige des sacrifices humains, on aurait immédiatement affaire à l'État qui volerait au secours de nos enfants, et heureusement. Ce qui m'a paru intéressant, c'est de réfléchir à la question du rapport au pouvoir. Et pour éviter toute confusion, je vais donner une petite explication sur la distinction entre autorité et pouvoir. Par le mot « pouvoir », j'entends la force de contrainte, parce que les lois écrites, les lois qui sont dans le code civil, code des obligations, etc., c'est une chose. Il y a les autorités élues, ce sont des personnes qui ne sont que de faibles êtres humains, soumis au risque de grippe, tout aussi fragile que quiconque. Et puis les lois, à la limite, dès qu'elles sont périmées, c'est du papier qui sert à allumer le feu. Donc on se rend compte qu'en fait, les autorités et la loi écrite, sans une force de contrainte, ne sont pas grand-chose. Et donc, on l'a déjà dit, nous sommes plus que des animaux qui marchent avec un instinct qui les programme. Et donc, nous avons besoin, nous, humains, d'une règle du jeu dès qu'il y a plus d'une seule personne à côté d'une autre. Et par exemple, je dis dès qu'il y a plus d'une seule personne, parce que je pense au mariage, ça fait deux personnes. Eh bien, pour réaliser un mariage au sens de la loi, la loi civile, il y a déjà beaucoup de règles, de règles légales, statuts, différents régimes matrimoniaux, enfin vous les connaissez ou vous en savez quelque chose. Et donc, il y a encore une loi immense sur les rapports humains, la descendance, les lois sur le divorce, etc. Ça fait vite 3-4 mètres de rayonnage, de littérature, juste pour deux personnes qui se mettent ensemble. Donc, il faut une règle du jeu pour les êtres humains, et cette règle du jeu, nous la prenons avec plus ou moins de bonheur depuis notre enfance. Et je dirais que pour notre développement personnel, conjugué à notre développement naturel, conjugué à l'influence de notre société, nous laisse en fait, une fois adultes, deux composantes fondamentales. D'une part, un petit royaume privé, caché, non négociable, qui est au fond de nous, qui est constitué de nos valeurs personnelles, de ces valeurs que nous avons admises, qui forment le noyau intérieur, qui va être défendu avec, que nous défendons bec et ongles, ces valeurs qui nous sont propres. Et d'autre part, eh bien, il y a un modérateur qui est la règle sociale que nous avons admise, avec plus ou moins de bonheur, hein, mais la règle sociale, quelque chose qui nous civilise, parce que si notre personnalité n'était constituée que de ce petit royaume privé, non négociable, de ces valeurs que nous chérissons et que nous ne négocions pas, nous serions en guerre perpétuelle avec les autres, avec tous ceux qui ne partagent pas des valeurs identiques. Donc, en principe, ce petit royaume intérieur, cette partie profonde, est comme entouré d'une couche protectrice, une sorte d'interface entre nous et autrui, qui nous civilise, qui nous permet de négocier, qui nous permet de vivre en bonne intelligence avec les autres, sans en venir aux mains, pour ne pas dire au couteau, actuellement. Cette couche protectrice de l'éducation nous permet de formuler de manière acceptable nos intérêts et la défense de notre petit royaume intérieur. Donc, on peut dire en résumé que notre éducation, c'est une interface entre nos valeurs et celles des autres. Mais il y a quelque chose d'un peu angélique à parler de cette manière en faisant croire que l'éducation suffirait à nous rendre sociables et doux comme des agneaux. En se promenant, à première manchette de journal qui nous tombe sous les yeux, on se rend compte que même si nous avons été civilisés, si nous avons été éduqués, nos valeurs s'entrechoquent avec celles d'autrui, malgré l'éducation. Alors le remède partiel, mais le remède que la société trouve, c'est d'élaborer des règles du jeu, d'élaborer des lois, des règles pour dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, pour vivre ensemble. On a des lois pour tout, pour tout, pour tout. Et même dans l'Église, nous avons des statuts, nous avons un règlement intérieur, nous avons une convention de collaboration avec nos églises sœurs. Donc, nous avons ce qu'on appelle une convention ecclésiale, etc. Donc, nous avons déjà des, même entre nous, plus aimables que nous, on ne trouve pas, mais on a quand même quelques petites règles qui sont là derrière, hein, ou en cas de conflit. Moi, je suis personnellement effrayé de voir comment tout est réglementé, comment la loi couvre absolument tout. Je dis des fois à mes amis au travail, dépêchons-nous de respirer pendant que l'air est gratuit, avant qu'il ne soit contingenté. Tout cela pour dire que tout cet arsenal légal n'a en soi pas la capacité de faire de nous des êtres disciplinés, sociables et vivant en bonne harmonie. Les lois sont malheureusement si nombreuses qu'elles ne sont pas assimilables par chaque individu. Et il faut le dire, j'ai regardé un peu le code civil comme ça, j'ai regardé 2-3 lois avant de causer là. Et je me disais, mais il y en a 80% qui ne me concernent pas. concerne pas. Ça relève d'objets qui nous sont étrangers. Donc, je suis un peu songeur devant l'affirmation qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, en fait, elles n'ont pas beaucoup plus d'effet qu'une déclaration d'intention. Parfois c'est efficace, parfois ça ne l'est pas. Maintenant, par contre, il est intéressant de savoir qu'est-ce qui est contraignant pour nous. Qu'est-ce qui exerce une contrainte sur nous. Ce n'est pas forcément le papier de la loi, pas forcément les élus que nous allons élire aujourd'hui. C'est là qu'intervient cette notion de contrainte du pouvoir. Et nous sommes beaucoup plus influencés par le pouvoir que par la loi, parce que cette dernière n'est qu'un exposé de règles. Le pouvoir, c'est la force de contrainte, et la force de contrainte peut s'appliquer de diverses manières, peut-être incitative, donc en disant que c'est plus avantageux de faire quelque chose, ou coercitif, on met un obstacle, si vous voulez faire respecter, je ne sais pas, une frontière, je prends par exemple ce cas d'une frontière, et que vous savez que ça peut être une passoire, et puis qu'il y a des gens qui, des fois, passent un peu vite pour éviter des contrôles, vous mettez une bonne herse qu'on peut sortir sur la chaussée, qui sort des piquantes d'acier de 10 cm, et puis qu'en appuyant sur un bouton, ça sort la herse, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. On peut, juste avec un moyen mécanique, exercer un pouvoir de contrainte. J'ai dit à une autre occasion, en étudiant un autre texte, alors vous vous en souvenez, mais comme Roger et sa famille n'étaient pas encore là, je le répète très vite, que la notion de contrainte a beaucoup évolué historiquement dans le groupe social primitif, la horde, enfin le petit groupe de survie primitif, la force de contrainte était incarnée par celui qui tape le plus fort, en gros. Et déjà du temps de Jésus, dans un empire, une grande organisation, il y avait du droit, il y avait des lois, du reste nous en sommes inspirés pour notre droit contemporain, ceux qui font le droit le savent mieux que moi, mais la force de pouvoir dans l'Empire romain, on le voit dans les textes de l'Évangile, est incarné par la troupe. C'est la troupe, c'est l'armée qui va régler les conflits. Hein. Une petite émeute, et hop, on envoie la troupe. On parle de soldats dans l'Évangile, on ne parle pas de police judiciaire. Hein. Et dans une monarchie, on a un pouvoir qui est incarné par un souverain, mais il a une milice, ou il a une sorte de police qui l'entoure. Et dans une république comme la nôtre, eh bien, nous avons un département des institutions, un service de justice et police, en gros, un service judiciaire, et des agents de police, des agents de la force municipale ou d'État, avec parfois une délégation à l'armée ou à des agences de sécurité privée. Mais la force de contrainte est évidemment déléguée. Malheureusement, notre État est très endetté et il n'a plus la possibilité de maintenir une force de contrainte qui serait capable de dissuader certains de s'écarter de la règle de la vie sociale, ce qui a un effet direct sur le relâchement des mœurs et la violence. Il reste donc pour un État un peu comme le nôtre, un peu une force privilégiée qui est celle de la finance, pour faire appliquer la loi, avec malheureusement aussi pas mal d'inégalités. Et donc, je dirais simplement que si le pouvoir de contrainte est aux abonnés absents, eh bien, les administrés ont tendance à faire la justice eux-mêmes. Alors, nous allons voir le premier texte, où c'est un exemple absolument typique, où dans la famille d'Abraham et Sarah, Saraï, Abram et Saraï, hein, avant qu'ils soient renommés, ils ont voulu d'abord se débrouiller eux-mêmes, aider Dieu. On applique le principe de la mère porteuse, on donne la servante au mari légitime. Là, la jalousie s'en mêle. Et nous voyons que Sarah et Agar, la servante, ne peuvent plus voir en peinture. Évidemment, la servante qui est enceinte se moque de la femme légitime. Elles en viennent à se haïr, probablement. Et on a le règlement d'un conflit selon la pire forme du pouvoir que nous pouvons envisager, c'est de dire à un être humain hyper énervé qui peut exercer lui-même la justice. Ça, c'est le pire qu'on puisse faire. Hein. Sarai, elle est plus sage qu'Abraham, plus sage que son mari, parce qu'elle est ultra fâchée contre sa servante qui la déprécie, mais elle peut encore dire que Dieu soit juge entre nous. Que Dieu soit juge entre nous. Tandis qu'Abraham, il prend un raccourci. Il délègue le pouvoir à son épouse de la manière la plus explicite. Vous vous souvenez de ce verset ? Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme bon te semblera. On est mal parti de dire cela à quelqu'un d'hyper énervé. On est mal, hein ? Et donc, en d'autres termes, défoule-toi sur elle. Du moment que c'est ta servante, eh bien, elle ne va pas se rebeller. Et c'est l'horreur. Le texte ne le dit pas, mais il est probable que c'est pour sauver sa vie que Agar, la servante, s'enfuit dans le désert. Juste en passant, elle s'enfuit avec l'enfant qu'elle porte. Ultime vengeance envers Sarai, sa maîtresse. Mais on voit, c'est beau les relations humaines quand on laisse libre cours à ce qu'il y a dans l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle nous trouvons aussi en Jacques 1,20 cette remarque, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Retenons juste de cet épisode que le principe de déléguer la justice à un organisme non passionnel, non impliqué dans un conflit, est une bonne chose. Le fait de déléguer la vengeance personnelle à l'État ou à un organisme supérieur est une bonne chose. C'est tout à fait conforme à l'ordre divin, à condition que cette justice, que cet organe de justice ne soit pas corrompu et ne soit pas influencé lui-même par des parties en conflit. Venons-en à notre second texte de l'officier romain qui rencontre Jésus. On est donc dans cet empire où les conflits se résolvent avec la troupe, de manière expéditive, et l'officier romain, même subalterne, je ne sais pas exactement, aujourd'hui un officier subalterne, ça serait, je pense, dans l'armée, un lieutenant, quelque chose comme ça. Je ne suis pas un grand fanatique de l'armée, mais disons un officier subalterne, c'est à peu près de ce niveau. Il a pour mission de faire régner l'ordre localement. Et comme il possède le pouvoir de contrainte avec des soldats, il n'évoque même pas l'idée que les ordres puissent être contestés. Hein? Il dit, je dis à un soldat, fais ça, et il le fait, c'est la règle. Et Jésus arrive devant lui, et il en a entendu parler, et il perçoit en Jésus le détenteur de l'autorité sur la maladie et sur le monde des esprits. Alors, il lui dit, de manière assez naturelle, finalement, je paraphrase, il dit à Jésus, mais mon serviteur est malade, alors donne un ordre à tes subalternes, comme moi je fais avec les miens, pour que la maladie et l'esprit sur lesquels tu règnes, lâche leur prise, hein, maladie ou esprit, parce qu'à l'époque c'était souvent associé. Évidemment, Jésus admire cette foi. En l'occurrence, l'officier romain voit l'autorité comme quelque chose de tout à fait naturel parce qu'elle est associée à la force de contrainte et il n'y a pas de place pour une contestation bien importante. À lui, détenteur de cette autorité, de prendre garde à la manière de l'administrer. Nous ne sommes aujourd'hui plus dans l'Empire romain et l'autorité civile qui devrait maintenir l'ordre et la paix sociale, ne dispose plus d'une force de contrainte pour imposer beaucoup de choses. Il n'est pas rare d'entendre des autorités, moi enfin, j'entends à la radio assez couramment, qu'il ne sert à rien de faire des lois qui ne seront pas appliquées. De mon point de vue, il paraît préférable de promulguer des lois qui seront appliquées, sinon mieux vaut s'abstenir. Parce que ce manque de force de contrainte donne des ailes à la contestation. Une autorité qui n'a pas d'autre force de contrainte que des suggestions, ou comme on dit aujourd'hui, des mesures incitatives, financières seulement, cette autorité est mal perçue, souvent mal perçue, parce qu'en fait, une autorité qui n'a aucune force de contrainte n'est plus une autorité. Elle devient un acteur parmi les acteurs. Et nous voyons très facilement cette tendance aujourd'hui de certains médias à criminaliser l'autorité. Tout acte d'autorité un peu musclé, ou qui met des limites claires, est aussitôt taxé d'abus de pouvoir, de non-respect de l'autorité à une autre loi ou à un autre principe. Alors, bien sûr qu'un abus d'autorité doit être corrigé, mais à partir de quand et où commence un abus d'autorité? Les personnes qui représentent l'autorité sans disposer de la force de contrainte se trouvent devant une grande tentation, celle de vouloir plaire à tout prix au peuple, aux administrés. Faut-il encore prendre des décisions qui seront contestées ou ignorées si elles ne plaisent pas? Faut-il prendre seulement des décisions qui plaisent au peuple? Beaucoup ont trouvé une troisième voie, ils ne prennent pas de décision, pas de décision du tout, en attendant que les circonstances prennent elles-mêmes les décisions. Dans ma modeste sphère d'activité professionnelle, je vois nombre de chefs de services, de départements, des gens qui ont une autorité dans l'organisation, arriver complètement épuisés, dans un état de fatigue extrême, de désespoir parfois, parce qu'ils ne savent plus comment formuler les plus élémentaires consignes de travail. Ils doivent ménager les susceptibilités, les règles sur la santé, sur un tas de choses. Ils sont devant des plaintes incessantes et ils sont devant des cabales, ils sont devant des, je dirais, une contestation qui est terrible. Et nos autorités se trouvent aujourd'hui devant une terrible force de contestation qui s'exprime notamment par la dérision et aussi par la critique sournoise, voire la criminalisation de toutes leurs décisions. Comme le temps avance, examinons vite le troisième texte de l'Épître aux Romains, où Paul parle de la soumission des chrétiens aux autorités civiles. Dans les textes, Paul dit « Sois soumis aux autorités supérieures ». On ne sait pas exactement ce que voulaient dire les autorités supérieures. On pourrait penser que ce sont les autorités supérieures à l'humanité, que ce soit l'armée des cieux, Dieu, le monde angélique. Mais en fait, dans la lecture attentive du texte, on voit que c'est probablement les autorités civiles, les autorités de l'État, de l'Empire, qui sont en jeu. On dirait aujourd'hui les magistrats ou les chambres législatives ou exécutives. Quoi qu'il en soit, l'apôtre Paul, qui parle sous l'inspiration de l'Esprit, dans le contexte de l'Empire romain, dit que le pouvoir civil administre l'environnement, les relations humaines, pour maintenir cette cohésion sociale et une certaine paix sociale. Et il dit donc que c'est un mandat d'ordre divin. Même si certains l'ignorent, le mandat de l'autorité est un mandat divin. Et dans notre société actuelle, nous voyons, nous avons vu, j'ai essayé de le résumer en quelques mots, cette tâche est si difficile, elle est devenue si ardue, qu'il est nécessaire, plus nécessaire que jamais, de prier pour les autorités, et peut-être en l'occurrence pour ceux qui vont être élus, pour qu'ils ne perdent pas de vue ou qu'ils aient conscience de leur mission, dans le sens où l'idéal serait qu'ils aient conscience que c'est une délégation que Dieu leur donne pour un temps d'une autorité en vue du bien commun et qu'ils agissent en conséquence. La question initiale nous revient alors, par quelle à quel pouvoir ou à quelle contrainte dans notre vie sommes-nous soumis de manière absolue? À qui donnons-nous accord? À qui faisons-nous allégeance inconditionnellement? Que ce soit dans la société ou dans notre vie personnelle, privée ou dans l'Église, je vais vous faire un petit exemple pour terminer, pour illustrer le problème. Alors, je vous demanderai de fantasmer un petit peu, faire un rêve éveillé. Nous sommes en 2015, c'est pas très loin, en 2015, et les principes des religions laïques sont bien implantés et sont passés dans les normes sociales. Par religion laïque, j'entends ces dogmes qui sont imposés par une idéologie pour modeler le comportement des gens. Par exemple, le comportement écologique, le culte de la santé, le culte du bien-être, la non-discrimination. Ces principes, qui ne sont pas faux, mais j'entends qu'ils deviennent un peu des religions. Eh bien, ces principes auront été tout à fait admis comme des valeurs universelles, des valeurs nécessaires, etc., et déclarés conformes au bien collectif. Très bien. Et un jour de beau temps, comme aujourd'hui, nous avons la visite de personnes qui viennent et qui nous disent « Ah, c'est sympa, votre église, on se sent bien, nous nous sommes mariés civilement, est-ce qu'on peut bénéficier d'un mariage religieux dans votre église ou dans votre communauté ?» Je ne voudrais pas être à la place du pasteur ou du conseil ce jour-là, parce que j'ai oublié intentionnellement de vous dire que ces personnes sont homosexuelles. Or, en 2015, il aurait été largement admis que toute discrimination par rapport à l'identité est passible de sanctions pénales. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous donner une conclusion par rapport à ce genre de problématiques qui ne manqueront pas du tout d'arriver. Et j'en profite pour l'ultime temps qui nous reste de cette année de Calvin 09 pour vous lire une déclaration de Calvin que j'ai lue récemment dans son institution de la religion chrétienne sur les principes régissant nos rapports de chrétiens envers le pouvoir civil. Alors je vous lis, je vous laisse, comment dire, franciser au jour d'aujourd'hui le texte, parce que Calvin, lui, quand il, je ne sais pas si vous lisez Calvin, moi c'est probablement la première fois que je lisais un livre qu'il a écrit, il fait de longues phrases, avec beaucoup de virgules, un peu des phrases pour non-fumeurs. Je vous en lis deux, je vous en lis deux. Alors je cite Calvin, sous le titre donc de l'extrait du quatrième livre, La Sainte Église Universelle, sous le titre L'Église et l'État. Le premier devoir des gouvernés envers les gouvernants est de respecter leurs fonctions, où ils doivent reconnaître une charge confiée par Dieu, et de leur témoigner pour cette raison le respect qui est dû à des délégués de Dieu. Je ne parle pas ici des personnes, et je ne suggère nullement qu'un masque d'autorité puisse servir d'excuse à la folie, à la bêtise, à la cruauté et à toutes les vilenies, et obtenir pour le vice la louange due à la vertu. Je dis seulement que la fonction d'autorité est par sa nature digne d'honneur et de respect et doit nous faire estimer ceux qui nous gouvernent en raison de la fonction qu'ils exercent. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie. Mais à cette obéissance due aux autorités, il doit toujours y avoir une exception, ou plutôt une règle, qui doit être observée avant toute chose. C'est que cette obéissance ne doit pas nous détourner de l'obéissance à celui à la volonté de qui il est raisonnable que tous les édits de nos rois se conforment et que tous, sous leurs ordres, se soumettent, et devant la majesté de qui leur orgueil doit s'humilier. Quelle folie ce serait en vérité pour vouloir plaire aux hommes, d'encourir l'indignation de celui pour l'amour de qui nous obéissons aux hommes. Le Seigneur est le roi des rois. Dès qu'il ouvre sa bouche sacrée, il doit être écouté par-dessus tous, à la place de tous, avant tous. Nous devons ensuite être soumis aux hommes qui ont autorité sur nous, mais soumis en lui, et non autrement. S'ils en viennent à nous prescrire d'agir contre lui, nous n'en devons tenir aucun compte. Il ne faut dans ce cas avoir nul égard à la dignité de nos chefs, à laquelle nous nous gardons de porter atteinte, quand elle est soumise à la puissance de Dieu, qui seule est réelle, quand on la compare aux autres pouvoirs. Vous voyez, ça, c'est des phrases, on a suivi, hein, vous comprenez bien l'état d'esprit. Donc, d'abord, les préceptes de Dieu, et puis si les hommes qui nous dirigent sont conformes, eh bien, on sera ravis d'obéir et de se soumettre aux lois. Mais si on nous demande de persécuter les chrétiens, on ne va peut-être pas tout à fait s'y soumettre. Et je voudrais conclure avec ce verset que Florence nous a lu tout à l'heure, qui me paraît d'une profondeur extraordinaire après avoir lu ce résumé de l'institution chrétienne de Calvin. Et ce mot qui dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi ».